Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois l'historien Loris Chavanette, spécialiste de la Révolution française et du Premier Empire, auteur de Danton et Robespierre, le choc de la Révolution paru aux éditions Passé Composé. Bonjour Loris Chavanette.
Bonjour Virginie Giraud.
Le comité des Jeux Olympiques et Paralympiques nous a enfin dévoilé la mascotte des JO de Paris 2024. Ce sont deux bonnets phrygiens rouges, aux yeux bleus, avec des drapeaux tricolores en guise de cils. L'un porte des baskets aux pieds et l'autre, une prothèse de jambe adaptée à la course. Ces deux petits personnages sont appelés les phryges. En choisissant le bonnet phrygien, les organisateurs mettent à l'honneur un symbole de la République française. On peut le voir sur la tête de Marianne, sur nos timbres, mais aussi sur des tableaux tels que la liberté guidant le peuple de Delacroix. Alors Loris Chavanette, que pensez-vous du choix du bonnet phrygien comme mascotte des JO 2024? C'est toujours un symbole républicain fort aujourd'hui pour les Français?
D'abord, il faut revenir sur, c'est l'actualité qui fait l'histoire, et le sport est l'amphithéâtre du monde. Et ça va être une vitrine formidable pour la France, pour Paris, et c'est l'occasion espérée et heureuse de faire parler, faire connaître aussi notre histoire. Et donc si c'est l'occasion, ce bonnet phrygien, la phryge dite, de parler de notre histoire, de revenir surtout, je pense, sur l'épisode révolutionnaire, je crois que c'est une bonne chose. Ensuite, ce qu'il constitue, c'est un symbole de la République, vous l'avez dit, c'est aussi l'adhésion à un sentiment de liberté. C'est un souffle qui passe par le bonnet phrygien, qui rappelle 1789, qui rappelle aussi la terreur. Or, pour le
donc
dire...
La terreur, c'est la période de la Révolution française où le sang a beaucoup coulé, mais je vous laisse nous l'expliquer.
Oui, mais il n'y a pas de lien avec le rouge du bonnet à ce moment-là. Les couleurs sont nationales. C'est le bleu-blanc-rouge de la cocarde, parce qu'on parle du bonnet phrygien, mais je crois que les yeux de la figurine sont habillés de couleurs bleu-blanc-rouge, tricolore, de la cocarde. Donc, c'est aussi le symbole de l'unité nationale. Si l'on peut dire ainsi, sachant que c'est un symbole qui divise, mais précisément, la Révolution française a fait entrer la politique dans a démocratisé la politique. Et à partir de la Révolution de 89, tout est politique, même jusqu'à la figurine des Jeux Olympiques, voyez-vous. Et depuis la Révolution française, notamment, être français, c'est adhérer à des valeurs. Ces valeurs sont notamment la liberté, mais aussi l'universalité des droits de l'homme. Et je crois que c'est assez heureux que le bonnet phrygien ait cette vertu de faire parler de notre histoire, une histoire qu'on a la chance, hein, on peut en être fier, d'avoir un passé tant glorieux que sanglant. Parce que parfois des larmes et du sang qui coule peut naître aussi, non pas grâce au sang, mais dans cette histoire, dans ce bouillon de l'histoire, des événements, des personnages et des valeurs. Et pour le dire simplement, j'ai fait un petit sondage auprès de mes étudiants pour savoir si le bonnet phrygien, qu'est-ce que ça leur évoquait, si positif ou négatif. Eh bien, le résultat, je vous le livre de ce sondage, c'est 80% positif.
Ah, donc ils ont une très bonne image du bonnet phrygien, de la Révolution et de leur histoire.
Je ne sais pas comment le monde interprétera ce symbole, parce que l'on retient aussi bien la prise de la Bastille, le mouvement d'émancipation des peuples, la souveraineté populaire qu'incarne le bonnet phrygien, aussi bien que la terreur, le sang, la guillotine, la figure de la guillotine. Mais les étudiants ont trouvé que c'était un coup de peps, peut-être, sur un idéal. Et comme disait Ernest Renan, on définit les individus, on pourrait les définir par l'idéal qu'ils portent en eux. Et nous portons, si on peut dire, le bonnet phrygien.
C'est au cours du XVIIIe siècle que les indépendantistes et les révolutionnaires se réapproprient le bonnet phrygien comme symbole de liberté. On sait qu'il a été porté pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis et aujourd'hui, il apparaît encore dessiné sur le drapeau de l'État de New York. Il parle à tout le monde finalement, ce bonnet.
Il a traversé la Méditerranée, il a aussi traversé l'Atlantique. Aux États-Unis, il y a tout un courant de non seulement de liberté, mais de libération. C'est cela qui est intéressant avec la Révolution française. C'est l'idée de passer d'un État à un autre. Les Américains l'ont fait. Ils se sont libérés du joug anglais, du lion anglais, dans une guerre d'indépendance. Donc c'est cela qu'il faut aussi rappeler avec le bonnet phrygien. Il est le symbole non pas de la paix, mais le symbole de la lutte en faveur de la liberté. Il est nécessairement une pomme, on va dire un bonnet de discorde, mais dans le sens d'une idée progressiste, une idée du progrès, de liberté des hommes.
À partir de 1790, ce sont les révolutionnaires français qui s'en emparent. Que représente le bonnet phrygien pour eux à ce moment-là ?
Bon, déjà à partir de 1789, il y a cette transformation, il y a cette identification d'un ennemi, c'est l'aristocrate. Et l'aristocrate, lui, on porte la perruque, j'allais dire comme le riche patriote ou le bourgeois porte la perruque. Danton, Robespierre portait la perruque. Tandis que le bonnet phrygien va incarner quelque chose de beaucoup plus populaire, de socialement incarné dans le Paris ouvrier des sans-culottes, les bien nommés sans-culottes. Alors, ils avaient bien évidemment une culotte, mais...
C'est le pantalon que portent les aristocrates, qui est court et fermé au-dessus du genou.
Voilà, ils portent aussi le bonnet phrygien. Et c'est un symbole, un signe d'appartenance à la Révolution française. Et assez rapidement, il y a donc cette construction par le symbole, par l'habit, hein, souvent ça passe comme ça, d'une certaine unité de la Révolution française. Aussi bien qu'on ne peut pas être indifférent à la Révolution française. On y adhère et on doit y adhérer pleinement. Les indifférents étaient même condamnés. Il y avait des pratiques d'exclusion et on peut pas nier à la fois le caractère unificateur qui exhorte à la liberté du bonnet phrygien et le caractère qui divise, bien sûr, puisque la Révolution va se colorer de guillotine, de sang. Et comment le nier ? L'historien doit rappeler les deux moments forts de la Révolution.
Et à quoi ressemble-t-il ce bonnet des révolutionnaires ? Donc, il est rouge, il est fait en quelle matière ?
Alors, au début, il n'est pas rouge. Au début, il est de différentes couleurs. C'est ensuite, progressivement, qu'il va vraiment être le rouge. Alors, il n'y a pas de lien, forcément, avec l'international, bolchevique.
C'est trop tôt.
C'est beaucoup trop tôt. Pour l'instant, c'est les deux couleurs de la ville de Paris, c'est le bleu et le rouge. Et Lafayette a fait insérer le blanc. Ça a donné la cocarde nationale. Donc, n'oublions pas que sur ces fameuses friges qu'il y a du bleu, du blanc et du rouge, puisqu'il y a la cocarde. Et cela, on ne peut pas le nier. Alors, le tissu est un tissu pauvre. C'est un tissu de laine. C'est un tissu qui est accessible à tout le monde. On est très loin des chapeaux de Marie-Antoinette, que vous connaissez bien, que son coiffeur Léonard lui crée des choses absolument magnifiques. C'est quelque chose, le bonnet phrygien, qui incarne l'égalité par la simplicité, par l'austérité aussi. Et c'est le mouvement sans culotte qui s'en empare pleinement et qui a voulu même l'imposer à certaines figures politiques, par exemple au Club des Jacobins, où Robespierre règne d'une main d'incorruptible grâce à son verbe. Robespierre va interdire le fait de contraindre à porter le bonnet phrygien. Il va s'opposer au fait que l'on porte de force le bonnet phrygien au Club des Jacobins. Donc il y a toujours dans la Révolution les deux faces, les deux revers d'une même médaille.
Et au XVIIIe siècle, le bonnet phrygien, on le retrouve partout. Le roi Louis XVI a lui-même été contraint de le porter après que les Parisiens ont envahi les Tuileries. Vous pouvez revenir sur cet épisode de la Révolution, Loris Chavanet ?
Ah ben c'est un épisode où le sang ne coule pas. Il n'y a pas de sang. Le 20 juin 1792, précisément, c'est deux mois avant la prise du château des Tuileries. Et en réalité, Louis XVI, la famille royale, vit à Paris depuis les journées d'octobre 89, dont on a beaucoup parlé récemment. Et Louis XVI est devenu un monarque constitutionnel, le roi des Français. Mais il s'oppose à plusieurs décisions de l'Assemblée. Il s'oppose notamment, il met son veto, on l'appellera
Monsieur
Veto. Il s'oppose au décret sur ciblant les prêtres réfractaires. Et à partir de ce moment-là, il excite la haine du Paris populaire, des sans-culottes, des jacobins, parce qu'il apparaît comme un obstacle à la Révolution, à sa régénération, faire table rase du passé. Et donc le peuple marche le 20 juin 92, c'est l'anniversaire du jeu de paume, mais c'est aussi l'anniversaire de la fuite à Varennes. Le roi avait eu la bonne idée de fuir lors de le principal anniversaire de la Révolution avec la prise de la Bastille. Et donc le peuple s'enfonce dans le château des Tuileries, contraint le roi à porter le bonnet phrygien avec la cocarde, à boire à la santé de la nation. Et il y a une scène qui est assez intéressante à ce moment-là, parce qu'il y a une véritable confrontation physique entre les ouvriers de l'Est parisien et Louis XVI, la famille royale, le Bourbon, l'arrière-arrière-petit-fils de Louis XIV. C'est ce moment où Louis XVI appose la main d'un grenadier sur son cœur et il lui dit « Regardez, est-ce le cœur de quelqu'un qui tremble ?» J'ai paraphrasé Louis XVI.
Fantastique, parce que cette phrase, je ne la connaissais pas, et ça lui donne une certaine épaisseur.
Ben, ça lui donne une épaisseur, du moins une certaine bonhomie, voire un certain courage face à l'adversité. Et le bonnet phrygien a donc incarné, sans doute depuis cette journée importante qui préfigure le renversement de la monarchie, le bonnet phrygien incarne aussi la négation de la monarchie, la négation du pouvoir personnel du roi.
Et d'ailleurs, le bonnet phrygien va disparaître avec Napoléon, puisque c'est le retour de l'Empire et d'une forme de pouvoir beaucoup plus autoritaire. Mais on le voit revenir pendant les Trois Glorieuses, la révolution de juillet 1830. Et on le voit surtout dans le fameux tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, où on voit cette femme avec son bonnet phrygien qui tient le drapeau bleu-blanc-rouge et qui marche sur une barricade. Pourquoi le bonnet phrygien revient à ce moment-là?
Bon, d'abord, il disparaît. Comme vous l'avez dit, à partir de la chute de Robespierre, on porte moins le bonnet phrygien, même si le bonnet reste illustré sur les actes publics. Et Napoléon, lui, porte la cocarde. Mais il va supprimer, bien évidemment, le bonnet phrygien, puisqu'il a inventé quelque chose d'autre, le bicorne, qu'il porte seul. Et il supprime, par ailleurs, la Marseillaise. La Révolution disparaît. Mais la Révolution revient. Elle revient au XIXe avec plusieurs événements, plusieurs crises, plusieurs insurrections populaires. Et c'est immédiatement, à 1789, au sans-culottes, au père fondateur de la liberté moderne, que les insurgés, les hommes des barricades font référence. Ils crient « Vive la liberté, vive 1789 !» Et cette femme, dessinée magnifiquement par Delacroix, habillée de courage à moitié nue, couverte du bonnet phrygien, incarne justement cette lutte qui recommence. L'histoire n'est pas terminée. Et notre actualité le prouve. Et sans doute, le fait de l'avoir choisi, ce bonnet phrygien, pour les Jeux Olympiques, ce n'est pas seulement une volonté de rappeler nos valeurs, c'est aussi une incantation à faire peser la voix de la France dans le monde et une certaine idée de la France, de la liberté.
Alors, est-ce que ce bonnet phrygien, il porte encore aujourd'hui nos valeurs, liberté, égalité, fraternité ?
Il véhicule ces valeurs, bien évidemment, même si, comment l'oublier, les massacreurs de septembre 1792, tous ces prêtres massacrés, ces Suisses massacrés sous la Révolution française, les massacreurs portaient le bonnet phrygien. Donc, c'est une pomme de discorde et il le restera. Malgré tout, la division doit aussi nous pousser à choisir notre camp. Est-ce qu'on choisit les idéaux de la Révolution française ou est-ce qu'on choisit liberté, égalité et fraternité? Ça date de cette époque. Mirabeau avait prononcé un des premiers le mot fraternité. Il ne portait pas le bonnet phrygien pour autant. 1789 défend ses valeurs et le bonnet phrygien n'est pas encore omniprésent. Donc la Révolution française incarne néanmoins avec le bonnet phrygien ce caractère social de et juridique de la souveraineté populaire. On ne peut pas faire sans. La souveraineté populaire, et ça me fait penser à ce poème de Arthur Rimbaud, Le Forgeron, quand justement lors d'une journée révolutionnaire où les hommes du peuple affrontaient le roi, la famille royale, à la fin d'un échange avec Louis XVI, où c'est le forgeron qui parle à la place du roi, à la fin, que fait le forgeron? Il prend son bonnet phrygien et il le jette au visage de Louis XVI. C'est un affront. C'est aussi ça l'idée de liberté, c'est l'idée que par la lutte, nous sommes tous égaux. Et le bonnet phrygien incarne ses valeurs, mais il faut en rappeler toutes ses histoires, car elles sont plurielles.
Exactement. Et d'ailleurs, Marianne, qui est l'allégorie de notre République, porte aussi le bonnet phrygien. Et pourtant, pendant la Troisième République, on voit que parfois, elle porte une couronne de laurier avec une étoile. Pourquoi ne porte-t-elle pas le bonnet phrygien ?
La Troisième République a cherché à marier la Révolution avec toute une tradition française par l'éducation. Donc, on essaie de mettre un terme, justement, à ces querelles révolutionnaires intestines de guerre civile française incessante. On veut instituer une nouvelle république basée sur des institutions, sur le respect du droit et l'anarchie que pourrait incarner le bonnet phrygien et justement banni en même temps qu'il est récupéré, parce qu'il véhicule des valeurs d'universalisme. Et c'est assez beau quand on pense à la Troisième République. François Furet disait qu'elle terminait la Révolution française. Quand on pense que Jules Ferry, Gambetta, idolâtraient Mirabeau, Danton, mais pour autant détestaient la terreur.
Alors,
on navigue en eau trouble. C'est un peu ce qui fait la magie de notre histoire.
Merci Loris Chavanet pour cet échange passionnant autour des Phryges. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Danton et Robespierre, Le choc de la Révolution, qui est paru aux éditions Passé Composé. Merci.
Je vous remercie.
Et nous, on espère que les Français nous ramèneront plein de médailles d'or. Et merci à tous nos auditeurs qui continuent à nous suivre de plus en plus nombreux. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à tous d'avoir écouté l'interview bonus du vendredi. Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée. Et si vous avez aimé, laissez-nous plein d'étoiles dorées. À bientôt.